rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte le moment qui est à l'origine de la chanson « Do you really want to hurt me ?» de Culture Club. Début des années 80, Londres. La nuit tombe sur Covent Garden. Sous les arcades de l'ancien marché couvert, la ville change de visage. Les théâtres se vident, les terrasses se remplissent. Le quartier bascule doucement vers une autre scène. Une file se forme devant une porte discrète. Un videur observe, jauge, décide. On n'entre pas ici par hasard. À l'intérieur, les lumières sont basses, presque irréelles. Les silhouettes avancent comme sur une scène invisible. Veste victorienne, chemise à jabot, maquillage appuyé, cheveux crêpés jusqu'à l'excès. Chaque détail est calculé, chaque regard est une déclaration. On ne vient pas seulement écouter de la musique, on vient se mettre en scène. Le Blitz Club est le laboratoire de cette nouvelle ère. L'Angleterre sort du fracas punk. La rage brute laisse place à une sophistication étudiée. Le synthétiseur remplace la guitare agressive. La froideur électronique devient élégante. La scène new romantique impose ses codes. Théâtralité, ambiguïté, élégance froide. Des groupes comme Duran Duran, Spandau Ballet ou Visage redéfinissent la pop britannique. Et derrière tout cela, une ombre bienveillante plane encore, celle de David Bowie. L'artiste a déjà ouvert la brèche 10 ans plus tôt. Ziggy Stardust a prouvé qu'on pouvait être multiple, androgyne, insaisissable et populaire. Il a montré qu'on pouvait transformer l'identité en performance artistique. La génération Blitz ne fait que pousser la porte qu'il a entrouverte. Mais l'époque a changé. L'Angleterre de Margaret Thatcher est plus dure, plus polarisée. Le chômage explose, les tensions sociales sont vives. L'excentricité n'est plus seulement esthétique, elle devient un geste d'existence. Et au milieu de cette effervescence, un groupe attire les regards, Culture Club. Un chanteur androgyne au visage poudré, autour de lui, un groupe qui ne correspond à aucun moule britannique classique. Un groupe métissé, blanc, noir, cultures différentes, milieux sociaux différents, références musicales différentes. Une pop teintée de soul, de reggae, de mélancolie. Pas encore des stars mondiales, plutôt une curiosité, une promesse. Un premier album est en préparation. Les maisons de disques surveillent, curieuses mais prudentes. Les caméras s'attardent sur son maquillage plus que sur ses refrains. Les journalistes hésitent entre fascination et ironie. Est-ce un homme, une femme, une provocation, un calcul marketing? On parle davantage de ses tresses, de ses chapeaux, de ses kimonos que des harmonies du groupe. On analyse son rouge à lèvres comme s'il s'agissait d'un manifeste politique. Les questions sont rarement innocentes. Comment doit-on vous appeler? Que voulez-vous dire par cette image? Est-ce sérieux? On l'interroge, on le scrute, on le teste. Il comprend très vite le jeu. Alors, il sourit. Il répond par une pirouette. Il retourne la question. Il refuse d'être enfermé dans une case. Il joue avec l'ambiguïté parce qu'il sait que l'ambiguïté lui donne du pouvoir. Mais derrière les paillettes, derrière cette image bientôt iconique, il y a une vérité que personne ne voit encore. Culture Club n'est pas qu'un visage. Autour de Boy George, il y a une alchimie singulière. 4 personnalités qui, sur le papier, ne devraient pas forcément se croiser. À la basse, Mikey Craig, groove chaleureux, héritier du reggae et de la soul. À la guitare et au clavier, Roy Hay, précis, mélodique, architecte discret des arrangements. À la batterie, John Moss, passé par les scènes punk et new wave, solide, terrien. Et au centre, la voix. Ce n'est pas un groupe fabriqué, c'est une collision improbable. Origine sociale différente, culture différente, influence différente. Soul, pop, reggae, new wave, sur scène, l'équilibre est invisible. La rythmique ancre, la guitare colore, la voix plane. Le groupe fonctionne, les répétitions sont efficaces. Les premières scènes confirment qu'il se passe quelque chose, une cohérence, une énergie. Un équilibre fragile, mais réel. Les rythmes s'emboîtent, la voix trouve sa place au-dessus de tout. Tout semble à sa place. De l'extérieur, rien ne dépasse, mais à l'intérieur, tout ne se dit pas. Au sein même du groupe, une relation existe, discrète, fragile, cachée. Entre le chanteur et le batteur, John Moss. Sur scène, il partage le rythme. En coulisses, il partage autre chose. Mais rien ne peut être dit. Le climat n'est pas tendre avec les différences. La presse adore les étiquettes. Un groupe peut être excentrique. Un amour entre deux hommes au cœur d'une formation pop grand public, ça c'est autre chose. Alors on se tait. Ce lien, personne ne doit le voir. Ni la presse, ni les maisons de disques, ni le public. Alors on compartimente. La musique d'un côté, les sentiments de l'autre. Sur scène, ils sont professionnels. En coulisses, les silences deviennent plus lourds. Et quand un amour ne peut pas exister au grand jour, il finit par se contracter. Il se crispe, il doute. Et c'est là que la fissure apparaît. Les répétitions s'enchaînent, les premières diffusions radio arrivent, le groupe commence à sentir que quelque chose peut se produire. Et c'est précisément à ce moment-là que la distance s'installe, dans un climat affectif complexe, nourri par cette liaison tumultueuse. Un regard qui fuit, une tension studio, des silences plus lourds que les disputes. L'amour, quand il est caché, ne peut pas se défendre. Il ne peut pas exister au grand jour. Il se replie, se fragilise. Boy George ne cherche ni la provocation ni le scandale. Il ne veut pas transformer sa vie privée en manifeste. Mais il ressent une douleur nette, héritée des relations tourmentées, notamment avec Kirk Brandon, chanteur punk et leader du groupe Theater of Hate. Une blessure encore amplifiée par le climat instable et passionnel qu'il traverse avec John Moss. Cette sensation que la personne qu'il aime s'éloigne. Comme si le regard des autres pesait soudain plus lourd que leur propre silence. Il n'écrit pas une chanson militante. Il n'écrit pas un manifeste sur la différence. Il écrit une supplique née d'un dub reggae écouté chez des amis de John. Personne, à ce moment-là, ne peut imaginer que cette fragilité va devenir le titre qui propulsera le groupe en tête des classements. Que cette question intime deviendra un refrain chanté dans le monde entier. Mais pour lui, c'est pas encore un tube. C'est une blessure qu'on met en musique. Et c'est précisément cela qui va tout changer. L'exposition de cette blessure intime est ce moment à l'origine de la chanson « Do You Really Want to Hurt Me ?» parue en 1982 sur « Kissing to be Clever », le premier album studio de Culture Club. À sa sortie, le morceau détonne dans le paysage pop britannique, dominé alors par les synthétiseurs brillants et les rythmes dansants de la scène new romantique. Culture Club propose une chanson lente, presque suspendue, qui refuse la démonstration. Là où d'autres imposent un style, ce titre impose un silence. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à toucher. Give me a time. Donne-moi le temps de comprendre ma faute. Laisse-moi aimer et voler. J'ai dansé à l'intérieur de tes yeux. Comment puis-je être réel ? Le texte ne s'ouvre pas sur une accusation, mais sur un doute. Il évoque la faute, l'amour, l'identité sans jamais trancher. On y sent une fragilité profonde, celle de Boy George qui cherche à comprendre ce qu'il représente pour l'autre et s'interroge sur sa propre réalité. Ce doute intime trouve son point d'équilibre dans le refrain. Là où les couplets hésitent, questionnent, cherchent leur place, le refrain simplifie tout. Il ne développe pas, il concentre. Veux-tu vraiment me blesser? Veux-tu vraiment me faire pleurer? Baisers précieux, mots qui me brûlent, les amants ne te demandent jamais pourquoi. La répétition transforme la question en vulnérabilité pure. Plus elle revient, plus elle semble fragile. Ce n'est pas une menace ni un reproche, c'est presque une supplique. La mélodie, descendante et douce, accentue cette impression de mise à nu. En quelques mots, la chanson résume l'essentiel. La peur d'être blessé par celui ou celle dont on attend précisément protection et reconnaissance. Musicalement, le titre confirme ce choix de douceur. La ligne de basse, influencée par le reggae, apporte une chaleur organique qui contraste avec la tendance électronique dominante de l'époque. La production laisse de l'espace. Rien n'est surchargé. La voix de Boy George est placée au centre, sans effet excessif, avec une retenue qui amplifie l'émotion. Il ne force pas la note, il ne dramatise pas, il laisse la mélodie porter la question. Succès immédiat, le titre atteint la première place au Royaume-Uni à l'automne 1982, puis s'impose à l'international. En 1983, il grimpe à la deuxième place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et est numéro 1 en Australie et au Canada notamment. En quelques mois, Culture Club passe du statut de curiosité visuelle à celui de phénomène mondial. Ironiquement, c'est la chanson la plus fragile du groupe qui ouvre la porte à cette reconnaissance planétaire. L'image avait attiré l'attention. La vulnérabilité, elle, conquiert le public. Avec ce morceau, Culture Club démontre qu'une pop grand public peut accueillir la nuance, la douceur et l'ambiguïté. Un chanteur androgyne peut dominer les classements internationaux. Une question murmurée peut devenir un refrain universel. Et c'est sans doute pour cela que « Do you really want to hurt me ?» continue de résonner aujourd'hui. Parce que, sous les couleurs et l'esthétique d'époque, il reste une question simple, humaine, que chacun a déjà posée au moins une fois. L'histoire d'amour entre George et John résonne aujourd'hui d'une manière particulière, dans un contexte où les questions d'identité et d'acceptation restent brûlantes. Culture Club ne chantait pas une idée abstraite, il chantait leur propre histoire. Give me time to realize my crime. Let me love and steal.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.
RTBF Classic 21, You Rock.